19h-20h. Et les informer avec Adil Farkan sur Beur FM.
Bonjour, bonsoir les amis, bonjour, bonsoir. Ravi de vous retrouver, quel plaisir chaque jour, quotidiennement, dans les informer. Eh bien, nous sommes ensemble. Une heure pour commenter, décrypter, analyser l'actualité. Vous le savez, la mécanique n'a pas changé. Nous commencerons avec une série d'invités, notamment avec le maire de Pantin. Puis ensuite, nous irons écouter le maire d'Austin, parce que figurez-vous que le mur de la honte continue de faire parler de lui, y compris vous. Vous continuez de nous appeler au 01 34 01 53 48 3000. Et puis ensuite, tout à l'heure, le face à... J'ouvrirai l'antenne, bien sûr. J'ouvrirai l'antenne au 01 53 48 3000. L'antenne pour qu'on commente ensemble l'actualité. Ce qui a retenu notre attention aujourd'hui. L'actualité concernant l'énorme panne sans précédent. Je veux faire référence de Facebook, Instagram, WhatsApp. Les amis auditeurs, que s'est-il passé alors depuis hier 17h50 jusqu'à ce matin? Est-ce que vous avez survécu à cette panne mondiale? Parce que certains, figurez-vous, ça les a rendus malades. Eh bien, est-ce que c'est des sujets qui nous préoccupent aujourd'hui? On partagera tout cela ensemble. Notamment aussi, nous irons direction pour parler d'un autre sujet qui préoccupe là, pour le coup, au plus haut niveau. Vous savez, c'est ces étudiants, avec cette file d'attente interminable, qui sont devant les points de distribution alimentaire. Ça, je dois dire, ça me rend furieux. Un étudiant aujourd'hui en situation de précarité, sans stage, sans emploi, en pleine crise sanitaire, il faut qu'on en parle, les amis. 01 53 48 3000, c'est ce qui se passe tout à l'heure. Et puis les débatteurs qui confronteront leur point de vue. C'est parti, vous le savez, plus que jamais, en toute liberté d'expression.
Beur FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Et l'invité actualité, il s'agit du maire de Pantin. C'est...
Les informés, l'interview.
L'interview, c'est avec le maire de Pantin. Bonjour, monsieur Bertrand Kern.
Bonsoir.
Ravi d'être avec nous et puis de vous recevoir dans les informés. Vous êtes le maire de Pantin, évidemment. Je ne présente même plus cette ville, Bertrand Kern, que vous, évidemment, que, sous votre impulsion, hein, qui a connu à la fois, je peux dire, un vrai bond économique, culturel, avec un caractère particulier qui vous caractérise. Est-ce que vous pouvez le décrire en quelques mots?
C'est une ville qui est aux portes de Paris et qui n'exclut personne, qui vit de sa mixité sociale, sa mixité économique, mais qui en même temps reste une ville populaire et qui permet à des gens de vivre avec des services publics qui sont forts aux portes de Paris.
Vous avez toujours des sujets, des chantiers à traiter. Comment vous faites, oui, monsieur le maire?
J'ai des sujets à traiter.
En permanence, j'ai vu, hein, ça grouille.
Oui. Quand vous êtes maire d'une ville de 60 000 habitants comme Pantin, vous savez, moi j'étais avocat à l'origine, j'étais obligé de m'en mettre parce que je ne pouvais pas faire les deux en même temps. Vous êtes obligé de consacrer l'entièreté de votre vie à cette fonction de maire, mais qui est passionnante.
Alors, nous allons parler, vous savez, d'une actualité qui nous préoccupe, parce que les auditeurs se sont emparés notamment de cette actualité, et ils ont aussi besoin de savoir les coulisses un petit peu de ce qui s'est passé. Crac à Paris, Pantin, Aubervilliers, contre ce fameux mur de la honte, c'était mercredi dernier, plusieurs centaines d'habitants, notamment de votre ville, monsieur le maire, qui ont rejoint ceux d'Aubervilliers pour un mot d'ordre, un mot, dénoncer ce fameux mur de la honte avec cette cloison qui bloquait l'accès entre la porte de la Villette et votre ville. Que s'est-il passé, monsieur le maire?
Écoutez,
ça vous a échappé?
Moi, rien ne m'a échappé. Moi, on est sur Paris, on n'est pas sur Pantin. Donc, j'ai l'habitude qu'un maire est la personnalité sans doute la plus puissante sur le terrain, le territoire le plus petit qui s'appelle une commune. Et au-delà de ce territoire de la commune, c'est-à-dire en l'occurrence Pantin, le maire n'a aucun pouvoir. Et donc là, si vous voulez, c'est le préfet de police de Paris.
Donc c'est Gérard Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui a décidé à votre place, sans vous consulter, par exemple?
Sans me consulter, le chef de cabinet du préfet de police m'a appelé vers 11h30 midi, vendredi matin, quand ils ont fait le déménagement. Et en fait, j'étais déjà au courant par le biais des médias.
Monsieur le maire, franchement, monsieur Bertrand Kern, est-ce normal?
Mais non, ça se fait.
Que ne vous soyez pas associé autour d'une table pour voir comment justement endiguer à la fois ce crack à Paris, mais surtout imaginer un scénario possible pour éviter ce mur qui est qualifié aujourd'hui de mur de la honte.
Comme c'est une décision qui a été prise dans la précipitation, sans concertation ni avec la maire d'Aubervilliers ni avec moi, maire de Pantin, et ben pour éviter des difficultés liées à la circulation des consommateurs de crack, pour les empêcher soi-disant de rentrer dans Pantin, on a fait un mur sous un passage qui traverse, qui passe sous le périphérique. Mais en fait, si vous allez quelques dizaines de mètres à droite ou quelques dizaines de mètres à gauche, ben vous rentrez dans Pantin ou dans Aubervilliers sans aucun problème.
Oui, mais le mur de la honte aujourd'hui, vous savez, cette centaine de vos habitants d'ailleurs, hein, c'est chez vous que ça se passait d'ailleurs, ils ont été sous le choc. Vous leur dites quoi d'ailleurs si vous pouvez... Nous, on a une grosse audience chez vous, monsieur le maire, oui. Je ne sais pas si vous le savez.
Si, je le sais.
Alors, vous le savez. Vous savez que beaucoup nous ont appelés la semaine dernière. Qu'est-ce que vous leur répondez, justement, ceux qui ont manifesté, qui continuent de manifester et qui continuent, d'ailleurs, de faire valoir, évidemment, un certain nombre de droits ?
D'abord, les remercier pour leur grande dignité, parce qu'en fait, ils n'excluent pas les consommateurs de crack. Ils disent, le vrai slogan qu'ils avaient, c'était « Soignez-les et protégez-nous ». Donc c'était un double message qui était envoyé au ministre de l'Intérieur et au préfet de police et aux autorités, aux
politiques. Oui.
Ce sont des gens qui sont avant tout des gens malades.
Oui.
Et donc, quand ils sont en manque de leur dose, ils sont capables d'avoir des faits, des gestes qui sont très agressifs, qui sont très violents. Et donc, il faut aujourd'hui les prendre en charge au niveau sanitaire et au niveau social.
Est-ce qu'il faut...
Je me dis à mes habitants de Pantin, moi, demain, mercredi, je serai présent à 18h. Je ne lâcherai pas. Et tant que le problème ne sera pas réglé par les pouvoirs...
Vous serez présent à 18h demain.
Tout à fait.
Dites-moi, monsieur le maire, monsieur Bertrand Kern, le mur de la honte, vous savez qu'aujourd'hui, il est comparé à d'autres murs, le mur de Berlin. Est-ce qu'un jour, vous, maire, on peut imaginer que ce mur, évidemment, soit abattu ?
Oui. Je vais même vous raconter une petite histoire. On travaille avec la mairie de Paris depuis plusieurs mois à une convention de gestion et d'entretien de ce passage dit Forceval sous le périphérique.
Oui.
Et on s'était mis d'accord. C'était comme c'est un peu à l'écart de Paris, mais que ça reste le territoire de la ville de Paris. En fait, on avait une convention qui devait passer, qui va passer d'ailleurs au conseil municipal de Pantin au mois d'octobre et au conseil municipal de Paris au mois de novembre, qui fixait une obligation d'entretien pour la ville de Pantin en lieu et place de la ville de Paris, et la ville de Paris nous remboursait la somme de 50 000 euros en échange.
Ouais, ouais.
On avait une coopération pour faire vivre ce passage, lui rendre un peu de dignité, parce que vous savez, c'est un passage sous une dalle en béton, un tapis en béton du périphérique. Franchement, c'est pas très agréable. Donc on voulait augmenter le confort de ce passage.
Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour répondre à... Parce que ce lieu a été aussi un lieu de haute consommation de crack, hein, qui ont été aussitôt d'ailleurs évacués, monsieur le maire, et transportés un peu plus loin. Comment on peut en finir avec...
pas de consommation de crack sur Pantin.
J'ai bien compris.
Mais je n'ai pas de trafic de crack sur Pantin.
J'ai bien compris.
Je pourrais vous dire que sur Aubervilliers, il y avait un petit peu de trafic et de consommateurs. Mais là, si vous voulez, c'est l'État qui, par sa décision, nous renvoie à un problème qu'il n'arrive pas à régler, comme si le quartier des Quatre Chemins à Pantin avait besoin de ça, déjà qu'on a beaucoup, beaucoup de problèmes et de difficultés à régler.
Alors, comment on peut ériger un mur, vous le savez, parce que c'est tout un symbole, hein, aujourd'hui.
Ça sert à rien.
C'est votre prochain combat, justement, pour aller faire comprendre, justement, à l'État qu'il faut en finir avec ce mur, qui est qualifié aujourd'hui de mur de la honte.
Moi, avant de parler de ce mur, qui est un symbole avant tout, qui est un symbole de d'échec des pouvoirs publics...
Ça, c'était ma question, monsieur le maire.
Ils construisent un mur, pour, à la limite, pour qu'on ne voit pas le problème, ce qui est complètement honteux.
Alors, est-ce que ce n'est pas le symbole de l'échec, alors, des pouvoirs publics ?
Si, je pense que c'est le symbole de
l'échec. Je vous pose la question.
Vous savez, la loi est très claire. Quand vous avez des majeurs qui sont en errance sur la voie publique et qui sont dans une situation de troubles psychiatriques ou médicaux, ils doivent être pris en charge par l'État dans le cadre de sa compétence d'hébergement d'urgence. Donc aujourd'hui, il y a déjà un certain nombre de craqueurs qui ont été pris en charge par l'État parce que la ville de Paris a proposé des locaux pour les accueillir et c'est l'État qui a payé la prise en charge. Mais aujourd'hui, il en reste entre 100 et 150 et il faut trouver une solution. Et quand on aura trouvé une solution pour ces craqueurs, ces consommateurs de crack, eh ben, vous voulez que je vous dise,
oui.
J'aimerais bien avoir une masse et aller démolir ce mur, parce que vraiment, au niveau du symbole, c'est comme une coupure entre Paris et la banlieue, entre Paris et Pantin, et c'est une coupure qui est inacceptable.
Qui est inacceptable. Vous avez parlé de solutions, monsieur le maire, monsieur Bertrand Kern, justement, je vous pose la question. Comment il peut imaginer cette prise en charge des craqueurs ?
Ben écoutez...
Des personnes toxicomanes. Qui sont d'ailleurs eux-mêmes dans le rejet des difficultés, monsieur, hein, monsieur le maire.
Oui, ce sont des gens qui sont complètement déstructurés.
Mais oui.
Moi, j'en ai vu plusieurs et ce sont des gens qui perdent le contrôle d'eux-mêmes. Ce sont des gens qui sont prêts à tout pour avoir les 10 euros qui leur permettront de se procurer leur dose. Mais en même temps, il y a eu des expériences à l'étranger, notamment au Danemark, en Autriche, en Suisse, en Allemagne. Et ce que propose la maire de Paris avec les salles de shoot, alors je sais que c'est pas populaire, mais ça permet, un, qu'ils consomment dans un lieu qui est sécurisé, où il y a, comment dire, une maîtrise de cette consommation par les pouvoirs publics et le pouvoir médical. Et après, vous avez une prise de conscience, une prise de contact qui est progressif avec ce consommateur de crack, qui en fait est quelqu'un de malade. Et vous savez, oui, après des enquêtes qui ont été menées, il y a 60 à 70% de ces consommateurs qui sont prêts à prendre le chemin d'une réinsertion médicale, sociale par la suite.
Donc, en quelque sorte, parce que je sais que j'ai eu notamment des auditeurs qui m'ont interpellé, mmh, en disant clairement, c'est le gouvernement et les différents maires qui se renvoient la balle. Qu'est-ce que vous leur dites, monsieur le maire ?
Écoutez, les maires ont déjà beaucoup à faire. Dans le cadre, je vous l'ai dit, dans le cadre de l'hébergement d'urgence, c'est une compétence État. Quand on évacue, par exemple, les migrants de la porte de Paris à Saint-Denis, c'est l'État qui s'occupe de les reloger dans le cadre de cette compétence d'hébergement d'urgence. Quand vous avez l'évacuation de la colline de Crac, elle est faite par l'État. C'est la police nationale qui le fait, et c'est au pouvoir public, et notamment à la compétence sanitaire et médicale, de prendre en charge ces personnes qui, encore une fois, pour moi, ce ne sont pas des délinquants. Le problème dans notre pays, c'est que les consommateurs de crack, on l'a toujours pris sous l'angle de la sécurité. Alors qu'on devrait le prendre sous l'angle de la question sanitaire et sociale avant tout.
Ma dernière question, monsieur le maire. Vous nous l'avez annoncé dans les informés sur notre antenne que vous serez présent demain à 18h justement pour cette fameuse manifestation qui se réunit tous les mercredis d'ailleurs, rappelons-le. Comment allez-vous mener votre combat justement pour en finir avec ce mur de la honte, qualifié de la honte ?
Le combat que je vais mener, c'est que je vais continuer à faire pression en m'exprimant sur des antennes comme la vôtre pour pas que ce problème soit oublié. Parce que si on l'oublie, on n'en parle plus, vous savez, moi je connais, je suis maire depuis quelques années, je sais comment ça se passe avec les services de l'État et les ministres. Quand on en parle beaucoup et qu'on fait des manifestations, des reportages, des émissions, des interviews, eh ben, à un moment ou à un autre, ça bouge. Donc il faut continuer. Il faut continuer pour que ça bouge, pour qu'on règle le problème de ces consommateurs de crack. Et je vous le dis, dans la foulée, démolir ce mur qui est inacceptable.
Bertrand Kern, vous êtes le maire de Pantin. Merci d'avoir été avec nous dans l'émission
Les Informés. Merci de votre
invitation. Merci, à très bientôt. Vous nous tenez au courant si ça bouge, hein ?
Oui, je vous tiens au courant.
Merci infiniment. 19h13, 14, 01, 53, 48, 3000. Je vais ouvrir l'antenne, notamment nous aurons le maire de Stein tout à l'heure. Monsieur Azzedine Taïbi, qui nous parlera aussi, qui nous livrera son sentiment. Je voudrais qu'on parle de Facebook au standard. Tiens, partout en France, comment vous avez vécu justement, parce qu'on est collé à notre portable, sur Facebook, sur Insta, sur WhatsApp, tous ceux qui avaient des lives par exemple sur Insta, comment ils ont dû gérer ? Tous ceux qui ont pour habitude d'utiliser WhatsApp, comment hier ils ont dû gérer justement pour éviter que leur stress ne se retrouve pas au summum ? Parce que je vous jure, je connais des gens. Ça les a, mis dans des états pas possibles. Alors, je voudrais connaître un peu votre comment vous avez vécu, justement, cette panne mondiale de Facebook, Instagram et WhatsApp. 01 53 48 3000, je vous attends. Ah c'est vrai, Bilal. Oui, Bilal, il me regarde de l'autre côté, il prépare son émission de 20h, et il me dit, effectivement, oui. Moi, je dois dire, hier, j'avais un live. Je me suis retrouvé dans la merde, pardonnez-moi la trivialité. Non mais c'est vrai, je me suis retrouvé, j'avais un truc, un live d'interview, donc voilà, il a fallu que je trouve un autre moyen. Alors comment vous avez géré cette situation ? Vous me dites au 01 53 48 3000, pub, à tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, Les informés avec Adil Farkas.
Les informés, si vous venez de nous retrouver, sachez-le, ça se passe ici, nulle part ailleurs. Et en toute liberté d'expression, les informés, c'est de 19h à 20h quotidiennement. Sachez-le, le standard est ouvert tout de suite.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Et oui, ils vous donnent la parole, justement, les informés. 01 53 48 3000 partout en France, partout. Je voudrais vous entendre réagir sur ce sujet de cette panne mondiale qui nous a, je dois dire, eh bien, pénaliser le monde, pénaliser tous ceux qui sont fans des réseaux sociaux. Une gigantesque panne des réseaux sociaux. Je veux parler de Facebook, d'Instagram, de WhatsApp, de Messenger. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on tâchera de comprendre. Certains parlent de piratage. Certains, vous savez quoi? Ils ont même été m'appeler, m'envoyer un message en me disant « Mais non, c'est pas un piratage. C'est la guerre d'Internet qui est en train de se préparer. » Après la crise sanitaire, je vous jure, on m'a dit ça. Après la crise sanitaire, ben maintenant c'est la guerre d'Internet. Ben écoutez, bon, pourquoi pas, moi je veux tout entendre. 0153 48 3000, tout de suite l'invité, actualité.
Les informés, l'interview.
Et nous sommes avec Azzedine Taïbi, que vous connaissez, que je ne présente même plus, qui est le maire de Stein. Monsieur le maire, bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir, j'étais à l'instant avec le maire de Pantin, Bertrand Kern, qui réagissait concernant ce fameux mur. Le mur, vous savez, on ne va pas refaire l'histoire, craque, hein, entre Paris et Pantin. La polémique qui tourne autour du mur de la honte, monsieur Azzedine Taïbi. Monsieur le maire, je vous rappelle à vous, rappelez-vous, je ne sais pas à vous à qui je vais l'apprendre, mais à nos auditeurs, vous avez abattu un mur, il me semble, il y a quelques années.
Oui, tout à fait.
Qui séparait le quartier de la Croix-Blanche et un parc départemental.
Tout à fait. Enfin, un mur qui empêchait les Stanoises et les Stanois, mais au-delà, de pouvoir accéder au parc départemental. Et donc, nous avons abattu une porte et qui maintenant est accessible pour les habitants. Et en effet,
donc, c'est peut-être une solution pour le maire de Pantin et d'autres, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous leur suggérez, monsieur le maire?
Alors, j'ai eu l'occasion d'écouter la fin de son interview. D'abord, je voudrais vraiment apporter tout mon soutien à mon collègue maire de Pantin, mais également à ma collègue de Bervilliers, parce que je pense qu'ils sont confrontés une fois de plus à l'incapacité de l'État de pouvoir trouver des solutions. Je trouve que, au-delà de ce mur de la honte, c'est vraiment le mur du mépris. C'est une fois de plus.
C'est vrai.
On veut à tout prix séparer, je dirais, dans Paris et celles qui sont en banlieue, en particulier ici en Seine-Saint-Denis, je trouve qu'il y a à la fois un mépris envers les habitants, et ça c'est insupportable, envers les élus, parce que visiblement le maire n'avait pas été informé.
Il nous l'a dit, il a été émis devant le fait accompli, là, hein, il nous l'a dit.
Il y a un mépris, hein, c'est plus que la honte, il y a un mépris total envers les habitants, et puis également il y a un mépris envers, malheureusement, les malades que sont les crackers, lesquels il faut trouver vraiment des solutions. Je dirais
Mais vous, homme d'expérience, homme des terrains, monsieur le maire, monsieur Azzedine Taïbi, qu'est-ce que vous suggérez peut-être? Qu'est-ce que vous esquissez comme solution?
Écoutez, je sais très bien que le maire de Pantin et puis la maire d'Aubervilliers vont prendre un certain nombre d'initiatives, et c'est une très bonne chose. J'aurai certainement l'occasion de m'associer et puis de leur donner mon total soutien. Je pense qu'ils sont, ils vont pouvoir trouver des solutions et puis pouvoir faire peser cette décision inadmissible et honteuse en 2021 que d'ériger un mur pour éviter le passage des crackers, alors qu'on sait très bien que les crackers, mur ou pas mur, ils passeront quand même, qu'ils le veuillent ou pas, quoi.
Mur ou pas mur, ils passeront quand même, oui. C'est terrible d'entendre ça.
Je pense que dans un premier temps, il faut engager, je pense que c'est certainement fait, des discussions très sérieuses avec les pouvoirs publics, avec les deux préfectures, la préfecture de Paris et puis la préfecture de Seine-Saint-Denis, pour trouver vraiment une solution durable. Mais encore une fois, je le dis, à un moment donné, c'est aussi la place, le rôle des habitants. Et je sais, j'ai pu voir dans la presse et puis j'ai pu voir quelques reportages où je trouve que l'attitude des habitants est exemplaire. Parce que très souvent, certains ont tendance à penser que les habitants se risqueraient de se rebeller vers les crackers. Et c'est pas du tout ça. Je pense qu'il y a vraiment une urgence sanitaire à apporter aux crackers. C'est une situation qui dure depuis trop longtemps sur Paris. Et c'est trop facile de renvoyer la responsabilité sur les maires qui sont sur le terrain, et qui ont les moins dans le cambouis. Donc, ça s'ajoute déjà aux difficultés que l'on rencontre et pour lesquelles nous sommes confrontés au quotidien, hein, sur d'autres sujets. Je rappelle qu'on traverse une crise sanitaire qui a fait des dégâts énormes ici en Seine-Saint-Denis, dans nos villes et dans nos quartiers populaires. Et rajouter ce grave problème parce que l'État le gouvernement a été en incapacité de trouver des solutions.
Alors,
je trouve ça inadmissible.
Monsieur le maire, monsieur le maire de Stains, justement. Donc, on a bien compris que vous apportez votre soutien la maire d'Aubervilliers et au maire de Pantin.
Bien sûr.
Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à l'un et à l'autre ?
Écoutez, bon, déjà tout mon soutien et puis leur dire de ne rien lâcher et de tout faire d'une part pour qu'il y ait un accompagnement très sérieux en matière sanitaire pour les crackers. Et je pense que ce mur-là, il faut le détruire. On peut pas, c'est inimaginable d'accepter que un mur, et je crois même deux murs, parce qu'il y a un mur côté Paris, me semble,
c'est
et
ça.
Un mur côté Pantin.
Exactement. Exactement.
Si j'ai bien compris, c'est deux murs. Moi, je pense qu'il faut à tout prix, parce que on ne réglera pas le problème. Et si on laisse justement l'État prendre cette décision qui est complètement indigne, ça veut dire que demain, on va se retrouver avec d'autres murs qui seront érigés à la demande, puisque c'était quand même à la demande du ministre de l'Intérieur. Donc, on risque de se retrouver avec d'autres murs qui vont s'ériger un peu partout et surtout dans le nord de Paris. Donc, ça, je trouve ça indigne. Je pense qu'il faut vraiment rien lâcher. Il faut à la fois entamer des discussions sérieuses avec les pouvoirs publics et mener, je dirais, une bataille collective et citoyenne, comme c'est le cas d'ailleurs en ce moment, pour en tous les cas mettre fin à ces murs. Parce que bon, voilà, on s'est battu pour que d'autres murs un peu partout dans le monde soient, je dirais, détruits. C'est pas ici, aux portes de Paris, en banlieue parisienne, qu'on va accepter ce type d'initiative qui est complètement, je dirais, hallucinante. Et qui est vraiment à côté de la plaque, parce qu'elle n'apporte aucune réponse concrète. Au contraire, elle crée de la frustration vis-à-vis des habitants.
Ça vous rappelle une petite histoire quand même, non ? Cette fameuse fresque, souvenez-vous, c'était il y a quelques mois, cette fresque qualifiée de tous les noms d'ailleurs, et il a fallu prendre une décision, vous, en tant que maire.
Vous parlez de quelle fresque ? Vous parlez de la fresque que j'ai...
La fresque, vous savez, qui était qualifiée d'anti-violence policière.
Oui, sur la fresque de Adama Traoré.
Absolument.
Et de Georges
Absolument.
Je rappelle que cette fresque-là ne visait pas les policiers de manière générale, elle visait les violences policières.
Ouais.
Et écoutez, j'ai pas été le premier à dire qu'il y avait des violences policières, puisque le président de la République l'avait dit quelques mois avant que je fasse le constat que malheureusement il y a des violences policières commises par certains policiers, pas par tous les policiers.
Alors.
Et le dire clairement, et ensuite que des artistes expriment par une voix artistique, est quelque chose pour moi d'important, parce que elle ouvre le débat, elle ouvre justement le dialogue pour essayer de trouver des formes, des actions apaisées, des actions de fraternité et des actions, je dirais, pour trouver le lien entre les habitants et la police. Donc,
Azedine. Azedine Taïbi, monsieur le maire de Stains, ça sera ma dernière question. Dites-moi, c'est vrai que je voudrais prendre un peu de vos nouvelles. Vous avez été menacé de mort, vous étiez sur notre antenne, évidemment, pour nous faire part de ce qui s'est passé, s'est déroulé. Aujourd'hui, dans quel état d'esprit vous êtes, monsieur le maire ?
Bon, je suis toujours dans un état d'esprit serein et combatif, et je le suis parce que je sais pourquoi je me bats, et je me bats pour faire en sorte que les valeurs de la fraternité, les valeurs de paix et de solidarité soient pour moi essentielles. Et puis, bien évidemment, le combat est aussi sur le combat de l'égalité de la justice. Alors, j'ai été menacé. J'ai pas été d'ailleurs le seul menacé. D'autres ont été menacés avant ou après. Pour l'instant, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt calme. Alors, à ma grande surprise, j'ai tout récemment découvert que je faisais partie d'une liste d'un fichier où j'ai été assez surpris d'être dans un fichier initié par l'extrême droite et par le réseau social français de souche qui me qualifie d'islamo-gauchiste et qui me qualifie en gros de dangereux potentiellement, alors que ce sont plutôt les réseaux sociaux d'extrême droite liés à la France aux Français de souche qui sont pour moi qui ont pour moi une attitude anti-républicaine et une attitude extrêmement dangereuse, quoi. Donc le combat continue.
Le combat continue.
Voilà.
Merci monsieur le maire, monsieur Azedine Taïbi, merci infiniment.
Merci de m'avoir invité. Merci.
Mais avec plaisir, 19h30, nous allons retrouver tout de suite le standard 01-53-48-3000 avec cette fameuse panne. Est-ce que ça vous a impacté vous-même ? J'aimerais savoir, évidemment, entre WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram. Tiens, je vais présenter nos face-à-face.
Les informés. Le face-à-face.
Le face-à-face ce soir, justement. C'est le maire adjoint de la ville de La Courneuve. Comment ça vous fait réagir, cette histoire de le mur de la honte, justement, monsieur le maire adjoint ? Monsieur Amin Sarr.
Merci d'abord, merci de m'inviter pour réagir à votre antenne. Je crois que ce débat est nauséabond en réalité. Et ce mur, il est juste l'incarnation, l'illustration de tout ce qui se passe depuis plusieurs années dans nos banlieues. Il y a une volonté affichée, en tout cas, de créer un certain séparatisme entre les populations. Et ce mur vient, une fois de plus, renforcer encore l'idée que dans les quartiers populaires que il y a une France à deux vitesses quelque part. Et du coup, oui, c'est un débat nauséabond. C'est un sujet qui, à la veille d'une échéance majeure, qu'est l'élection présidentielle, qui vient une fois de plus mettre le feu aux poudres.
Exact, oui. Messieurs, nous allons, vous savez quoi, je vais vous faire évidemment commenter l'actualité. Ibouba, bonjour, ça va Ibouba?
Très bien.
Journaliste également. Qu'est-ce que vous arrive là depuis tout à l'heure? Je vous vois pour vous prendre en photo là.
Ah ben, comme vous le savez très bien.
C'est les réseaux sociaux ça.
Je roule.
Mais ils sont pas les réseaux sociaux, Ibouba.
J'essaie juste.
Bah justement, c'est ça qui m'intéresse moi.
Exactement.
On se prend en photo, on fait des lives, on fait ceci, etc. Et quand c'est en panne, eh ben, on se retrouve dans la merde. Enfin, pardonnez-moi la trivialité du terme, mais c'est un peu ça, non?
Alors, moi, je vais vous dire quoi.
Oui.
Ça veut dire que je crois que Mark Zuckerberg a tout compris.
Ouais, pourquoi?
Aujourd'hui, il est en train de jouer donc avec la perception, sinon je dirais bien cette façon de faire donc de plus de 2 milliards de personnes dans le monde.
Ah, mais il a quand même.
Il est en train de jauger un tout petit peu son poids.
Mais non, jauger son poids.
Effectivement.
Vous savez combien il a perdu la bourse
internationale?
Est-ce que vous savez combien il a? Plus de 6 milliards, chers amis.
Mais 6 milliards, chers
amis,
c'est rien
du tout.
6 milliards par rapport donc, à sa voix, c'est qu'il pèse aujourd'hui.
Donc vous, c'était pour juger
plus de 2 milliards de personnes.
Ces internautes.
Mais bien sûr, qui sont connectés sur Facebook, sur Instagram.
Mais
est-ce que vous
pourquoi,
avez pu comprendre ce que le monde a pu vivre en quelques minutes?
7 heures ou plus de 8
alors,
heures.
Alors, 7 heures sans Facebook, mais ça veut dire beaucoup de choses.
Mais ça les a rendus malades. Hein.
Et là, Adil, maintenant, tout ce que je voudrais vous dire, je vous fais penser tout simplement à ces années 90, 92.
Oui.
On n'a pas vécu cela,
non,
vous savez
très
bien.
On a vécu autre chose.
Voilà exactement, cette nouvelle génération aujourd'hui. Donc
cette génération, elle a baigné dedans, elle est née avec.
Eh ben voilà.
Qu'est-ce que vous leur dites? Ben, C'est pour ça que je voulais qu'on en parle.
Alors, 7 heures sans Facebook, sans Twitter, le monde entier en parle.
Ouais,
et c'est extraordinaire. Mark Zuckerberg a pu quand même mettre sur la balance son poids et savoir ce qu'il pèse aujourd'hui pour le monde. Et aujourd'hui, vous savez très bien, avec ce qui s'est passé, ce problème de Covid et autres donc, qui sont passés, les mauvaises langues ont toujours dit que c'est les riches qui sont derrière tout cela.
Et
parmi ces riches ont été cités, Marc.
Ouais.
Donc aujourd'hui...
Vous savez, je vais juste vous interrompre 30 secondes parce que c'est des chiffres que je vais vous donner. De ce matin, donc tout est revenu à la normale. Facebook, Mark Zuckerberg justement a expliqué qu'un changement de configuration erroné, ce qui explique cette panne d'envergure mondiale, plus de 3 milliards, messieurs, d'utilisateurs impactés. 3 milliards,
ce qui
veut dire ou 3,5 milliards si vous voyez
avec l'ensemble des entités
avec l'ensemble
Facebook.
Alors, est-ce qu'on peut parler d'erreur interne ou est-ce qu'on peut parler de piratage, Amine Sarr?
Alors, je crois je ne crois pas à cette théorie du piratage. Je crois, enfin, ce qui s'est passé hier, c'est pas un événement anodin. Hein, c'est quelque chose d'assez important.
Mm-hmm.
Je crois que ça va au-delà de la panne, puisque je crois que les pannes, les grands.
On parle de 7 milliards, voilà. Le chiffre précis, c'est 7 milliards aujourd'hui qu'il a perdu.
De pertes, oui.
Ouais, de pertes.
La réalité, c'est que ce qui s'est passé hier, c'est bien au-delà. Alors moi, ça m'a pas particulièrement mis en difficulté, mais
moi aussi,
je crois que cette déconnexion, ça nous a tous fait un peu de bien.
Ah bon,
finalement. La réalité, c'est que les réseaux sociaux ont pris quand même beaucoup de place. Un géant comme Facebook, avec l'entité Instagram, Messenger, WhatsApp, c'est 3,5 milliards d'utilisateurs. Je ne sais pas si on se rend compte de la force de frappe de cette, entreprise. C'est énorme, c'est la moitié de la population mondiale quand même, c'est pas rien. Et du coup,
Non mais ils précisent pas la nature du problème, hein. Ils sont flous.
Alors ils ne précisent pas, mais
ils sont flous.
Ce qui précise quand
moi,
même.
Moi j'avoue que ça me laisse perplexe. Mais
je crois que c'est. Alors peut-être qu'il y a, il faut y voir quelque chose, une mise en scène, j'en sais rien. Peut-être. En tout cas, de ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que c'est plus qu'une panne. Puisque des pannes, ils en connaissent à répétition et je crois qu'ils ont, ils ont l'habitude de les gérer. Là, on a quand même un arrêt de 7 longues heures avec ce que ça a suscité en termes de pertes pour la firme. La réalité, c'est que
C'est du jamais vu, hein, Amine.
C'est du jamais vu.
Attention, c'est du jamais vu pour le géant américain.
C'est
la première fois.
Enfin, les spécialistes, les techniciens eux-mêmes de Facebook.
Et ça va laisser des traces.
Et dans l'incapacité de résoudre le problème, puisque même les réseaux internes de Facebook ont été touchés. Donc, les techniciens eux-mêmes ne pouvaient pas communiquer les uns avec les autres et régler le problème de manière plus efficace. Après, sur la question des réseaux sociaux, moi, j'essaye de prendre un peu de distance. Ça suscite quand même un certain nombre de problèmes. Il y a cette question de la puissance que la firme a engrangée, notamment avec la question des datas. Il y a eu, avec cet événement hier, tout un tas d'informations qui sont remontées à la surface, notamment sur les études que Facebook a pu mener sur le regard des femmes qu'elles portent sur elles-mêmes vis-à-vis des réseaux sociaux, la question du harcèlement, enfin tous ces sujets qui sont éminemment importants et qui ont qui vont, à mon avis, dans les prochaines années, beaucoup
et vous savez quoi, Amine Saïbouba, je vais vous apprendre quelque chose, peut-être pas d'ailleurs, hein. Eh ben, ces 7 heures justement de panne, plus de 7 heures de panne, ont permis, vous savez quoi, aux concurrents, je pense à Telegram et Signal, qui eux ont vu leur téléchargement et le nombre de nouveaux utilisateurs, mais complètement exploser. Et je vais vous dire la vérité.
C'est dire
moi,
la
j'ai
dépendance
vu,
qu'on
j'ai
a
Signal,
vis-à-vis de ça.
J'ai Telegram. Et je voyais le défilé de gens qui me disaient, vous savez, on l'a la notification.
Oui, il y a une alerte qui dit que
la personne est entrée sur Signal, Telegram. Mais j'en ai vu. Vous savez combien, 1000? Au moins une cinquantaine.
Eh ben c'est,
moi, à mon niveau.
C'est révélateur, une fois
donc,
de plus.
Donc, je me suis dit, tiens, les gens, j'avais compris qu'à ce moment-là, effectivement, il se passait quelque chose. Ibouba, on peut parler de piratage ou pas?
Ah ben, piratage, non, je crois pas, puisque, à mon avis, peut-être sûrement qu'on en a pensé, c'est vrai. Mais si nous savons un tout petit peu donc, la plateforme Facebook, et nous savons qu'aujourd'hui, les moyens qui ont été mis par Mark, effectivement, donc, lui-même était parmi, donc, comment on peut les appeler encore
qui ça?
Comment on les appelle, ils ont un petit nom un peu bizarre là que j'ai oublié, les pirateurs, c'est qui en général qui sont voilà. Toujours donc on se couche donc des piratages en fait en quelque sorte donc sur internet, sur Facebook, sur tous ces réseaux sociaux en quelque sorte. Donc Mark a mis beaucoup d'argent pour sécuriser Facebook. Et Facebook, je crois qu'aujourd'hui, pas seulement Facebook, d'ailleurs, même Instagram maintenant, parce qu'aujourd'hui, on sait que donc il y a certains aussi, comme Instagram, qui est un tout petit peu critiqué au niveau des États-Unis, par les familles, par les parents en général, donc des ados qui ne veulent pas du tout donc du fait que ces enfants qui sont en train d'utiliser aujourd'hui Instagram sont tout à fait exposés. Alors, il faudra justement comprendre que Mark a mis beaucoup de sous pour que quand même donc
je viens d'avoir un flash. Vous voulez parler des hackers?
Voilà, des hackers effectivement.
Des hackers.
Et voilà. Effectivement des hackers. Ouais. Aujourd'hui, vous savez que Mark aussi a été hacker. Donc d'abord il a été hacker.
Oui, c'est vrai, c'est
donc,
vrai.
Donc d'être sur ce positionnement là aujourd'hui. Donc il sait tout simplement les petits filons,
les
petits
génies.
Donc effectivement,
il
sait là où passer pour essayer de couvrir aujourd'hui donc c'est pour sécuriser plutôt donc tout ce qu'il a aujourd'hui comme Facebook, comme Instagram et autres. Donc
allez,
je crois qu'aujourd'hui,
je vais juste marquer une pause. On est très à la bourre. Je voudrais pas qu'on se mette en retard. 19h40, messieurs. Amine Saha, maire adjoint de la ville de La Courneuve, mais également Ibouba, qui est journaliste. On se retrouve dans une poignée de minutes, juste après la dernière pause pub, pour la dernière ligne droite, où là, nous allons commenter, vous savez quoi, un sujet qui va nous concerner au plus haut. Moi, franchement, ça me déchire le cœur quand je vois qu'on parle encore aujourd'hui, eh bien, vous savez quoi, de ces étudiants qui se retrouvent dans une précarité la plus totale. On va en parler, parce qu'il faut trouver des solutions. en dehors évidemment de comment dirais-je de toutes ces associations qui participent sous la forme de colis alimentaires. À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Les informés avec Adil Farkan.
Bienvenue si vous venez de nous retrouver les 19h44 précisément dans les informés, le face à face.
Les informés, le face à face.
Le face à face, Amin Sa, le maire adjoint de la ville de la Courneuve. Face à lui, Ibouba, qui est journaliste. Nous continuons de traiter ce second sujet qui a évidemment secouer notre journée. Je parle, vous savez quoi, de ces files d'attente interminables d'étudiants devant les points de distribution alimentaire. Et je parle des étudiants qui sont aujourd'hui, souvenez-vous, j'en ai parlé sur l'antenne de Beurre FM, en situation de précarité, sans stage, sans emploi, en raison de la crise sanitaire, bien sûr. Et alors, je dois dire, quand on voit les images, quand on voit les vidéos, c'est des allonges à nouveau de files d'attente de points de distribution pour des colis alimentaires. Messieurs, il faut qu'on en parle. Monsieur le maire adjoint. Ça vous choque? Ça vous...
Évidemment, enfin, ça me choque.
Vous n'êtes pas surpris?
Vous savez,
vous...
La ville d'où je suis, élu, c'est...
La Courneuve?
C'est ce genre de difficulté.
Ils l'ont fait d'ailleurs, les colis.
On le connaît au quotidien. Je suis moi-même parmi... Enfin, je travaille avec certaines associations qui œuvrent dans ce secteur-là. Oui, c'est un sujet qui a été révélé par la crise sanitaire. C'est quelque chose qui existait déjà. Ça a été amplifié par la crise sanitaire, puisque tous ces étudiants ne pouvaient plus avoir de petits boulots, comme on dit, ne pouvaient pas donc joindre les deux bouts. Aujourd'hui, ils survivent et la seule solution qu'ils ont, c'est la soupe populaire.
C'est bien d'avoir dit survivre, parce que j'ai 46% des étudiants qui sautent des repas pour des raisons financières.
Oui,
ils survivent. Vous avez raison.
C'est dramatique.
46%. 46%, c'est dramatique. Et Amine, ça, vous pardonnez-moi, donc c'était juste pour compléter un petit peu ce que vous disiez, ils survivent.
C'est, comme je le disais, c'est révélateur de la défaillance des pouvoirs publics à agir efficacement pour éviter qu'on se retrouve justement dans ce genre de situation. Et souvent, les derniers maillons qui restent dans cette chaîne, c'est les associations qui font de l'aide alimentaire. C'est aussi les collectivités locales qui parfois offrent des repas ou d'autres aides de ce type.
On parle de quasiment entre 150 000 et 200 000 quand même. Avec 15 000 étudiants d'Île-de-France depuis un an, notamment, qui sont obligés aujourd'hui d'aller se retrouver à récupérer des colis ou des invendus alimentaires. Ibouba.
Je crois que c'est dramatique quand même. Il faut le dire. Nous avons tous été étudiants. Donc, c'est vrai qu'à notre temps, on n'a pas connu ça.
Non.
Donc, c'est extraordinaire quand même. Et de plus en plus.
Et franchement, c'est vrai que c'est terrible d'aller se voir. C'est peut-être même d'ailleurs. Est-ce que c'est pas une espèce d'humiliation, non? Ils se sentent je me pose la question, moi. Si on a des étudiants qui nous écoutent, je veux bien qu'ils nous appellent au 0153 48 3000. Aller récupérer des colis alimentaires, est-ce que c'est pas aussi ça touche son ego?
Oui, mais tu sais, Adil, aujourd'hui, je crois que la fierté humaine, on la dépense, puisque ça vaut mieux que mourir de faim et d'être frappé par la mélancolie, la détresse, une page de vie quasiment dénaturée. Nous sommes jeunes aujourd'hui, l'avenir est incertain.
Il n'y a aucun avenir.
Donc aujourd'hui, vous savez très bien, regardez notre génération, c'est les bacs plus 12 qui sont là, qui sont toujours en train de traîner, et pourtant qui ont un niveau bien précis, mais qui n'arrivent pas à trouver du boulot jusqu'à aujourd'hui. Et je ne sais pas maintenant, cette génération à venir, je crois que c'est une génération qui est une génération sacrifiée.
Mais comment on peut endiguer la précarité des étudiants, justement?
Mais ça, je crois qu'il n'y a que l'État qui peut faire quelque chose aujourd'hui.
L'État?
Exactement. Ouais. C'est l'État qui peut faire quelque chose aujourd'hui. Et l'État a de plus en plus, nous sentons plutôt que l'État...
Mais est-ce qu'on attend tout de l'État?
Non, mais oui, on attend beaucoup de l'État, parce qu'ils sont là pour ça. C'est ce qu'il faut dire. Et surtout dans ce cadre-là, parce que nous savons très bien que ces jeunes-là, aujourd'hui, à leur âge, il faudrait que l'État pense, parce que être l'État, c'est nous, c'est tout le monde. Mais ceux qui sont aujourd'hui caciques, ils doivent prévoir. Donc ils doivent prévoir cela. Ils savent qu'aujourd'hui, le monde est fouetté par cette crise-là qui ne dit pas son nom. Et que les jeunes, aujourd'hui, de plus en plus, sont en train de vivre cette situation-là. Et ça ne fait que s'accroître. Et je crois qu'il faut trouver une solution palliative.
Sauf qu'à mon avis, la solution, on n'est pas prêt de la trouver dans l'immédiat. Amine, ça?
des solutions. Il y en a sur la table. Il y a un certain nombre de collectivités. Alors, il y a les associations qui viennent prêter main forte, mais il y a surtout des solutions politiques qui sont mises sur la table, notamment un dispositif qui va être expérimenté dans le département de la Seine-Saint-Denis, le RSA Jeune, qui peut être une réponse à ce genre de difficultés.
C'est une promesse d'Emmanuel Macron, le président de la République. Ouais.
Oui, enfin, il y a des collectivités, des élus locaux qui travaillent et qui demandent ça depuis bien longtemps. Et à ce jour, il n'y a aucune discussion sur la table du Conseil des ministres pour dire qu'est-ce qu'on fait face à ce genre de situation.
J'ai des étudiants, par exemple, ils disent en un an, il n'y a rien qu'à bouger. Vous partagez ?
Bien sûr.
Oui.
Bien sûr.
Mais je crois que c'est bien que le maire il soit là aujourd'hui, je crois. Monsieur le maire, moi j'ai
envie.
Monsieur le maire adjoint. Oui,
moi j'ai pas de problème.
Ouais, mais absolument. Non, je sais que vous n'avez pas. Mais aujourd'hui, c'est vrai que vous êtes à la vitrine de tout cela parce que vous avez un message aussi à lancer à cette jeune communauté qui est chez vous à Pantin. Non, mais si, oui, parce que nous aujourd'hui, c'est vrai que la jeunesse, elle attend quelque chose de réel.
Non, mais à la Courneuve. Est-ce que la mairie fait des choses pour les étudiants de la Courneuve?
Oui. D'ailleurs, on travaille en ce moment sur.
Tiens, on pose la question, Ibouba.
Oui, absolument.
Sur une aide qui va être attribuée aux jeunes courneuviens. Mais la question, elle est bien plus globale en réalité. C'est que c'est l'ensemble du territoire qui est concerné. Et dans les métropoles comme en Île-de-France, ce sont des sujets éminemment importants qui prennent de plus en plus de place. Et ça vient, encore une fois, c'est révélateur de la situation dans laquelle se trouve le pays. Depuis longtemps, mais révélé par la crise sanitaire.
Oui.
Et je crois que dans les semaines, dans les mois qui viennent, cette question-là va être cruciale dans le cadre.
Sauf que là, on a affaire à de plus en plus de files d'attente interminables.
Absolument.
C'est là où ça préoccupe.
Alors, il va y avoir
la pauvreté et la crise, elle s'accroît. Ça veut dire qu'aujourd'hui.
Donc, ça veut dire plus de pauvres,
ben oui.
Plus de misère,
plus
de galères, plus d'inégalités, etc.
Et ce qui est visible, ce n'est que ces jeunes-là. Mais la population aujourd'hui française, elle devient de plus en plus pauvre.
Oui, c'est vrai.
C'est un problème. Un problème qui doit être traité avec une certaine acuité.
Le fossé se creuse, messieurs.
Enfin, par ailleurs, ce que vous disiez tout à l'heure sur la dignité, oui, certains dépassent et font preuve de courage pour justement aller chercher ces colis alimentaires. Mais il y a toute cette majorité
absolument
qui sont dans l'ombre, qui ne viennent pas et qui presque se laissent mourir finalement. Parce qu'il y a cette question de la dignité, parce qu'il faut s'armer de beaucoup de courage pour aller chercher ces colis alimentaires.
Je suis désolé, mais c'est vrai qu'il faut avoir le courage quand même.
Avoir le courage de le faire, Adil.
La démarche de se dire, avant le courage même, la démarche de se dire, je vais aller franchir le pas pour aller récupérer un colis alimentaire.
Ouais. Il faut le faire.
Il faut le faire.
Ça veut dire qu'il faut le vivre aussi, pour savoir. Parce que si on reste, par exemple, 2 jours, 3 jours sans manger, et que vous pensez que ce colis alimentaire-là pourra vous dépanner, c'est triste quand même pour un pays, pour la France.
On souhaite plein de courage.
Un pays qui est 5e puissance mondiale, je crois que c'est un problème.
Ce que j'ai envie de leur dire surtout,
c'est un problème. Et il faut le dire. Et il faut le dire haut et fort quand même.
Bien sûr.
C'est de se mobiliser d'abord, parce que le débat sur cette question, il va être important. Et d'abord, et de ne pas avoir honte. C'est pas à eux d'avoir honte, c'est à celles et ceux qui sont au pouvoir depuis bien longtemps et qui
absolument
font rien. Pour,
absolument, monsieur le maire.
Allez, messieurs. Il nous reste 2 minutes à peine. Je vais vous donner le mot, la parole pour quelques secondes. Je suis désolé. Mais il y a quelque chose aussi qui nous préoccupe, c'est, vous savez, ces fameux. Cette fameuse bataille qui est en train de prendre de l'ampleur. Je veux parler de tous ces syndicats qui continuent d'appeler à la grève et à manifester. Et partout en France, des défilés qui vont continuer d'être organisés à Marseille, à Paris, donc bref, Nantes, que dans des grosses villes. Et ça prend de l'ampleur avec des revendications qui sont très précises. C'est les salaires, c'est les réformes d'assurance chômage, c'est les retraites, c'est. Monsieur le maire adjoint.
Oui, moi je me réjouis que ces débats.
Ça vous réjouit?
Bien sûr, parce que.
Pourquoi?
Pendant tout ce quinquennat, on a perdu beaucoup de temps. Il y a eu la crise des Gilets jaunes qui a révélé aussi un certain nombre de sujets. Et que cette question sociale revienne à l'approche des présidentielles, je crois que c'est une bonne chose pour éviter notamment d'avoir un débat uniquement centré sur la question identitaire, comme on le voit sur l'ensemble des plateaux télé. Je crois que c'est plutôt une bonne chose que toutes ces questions. Alors,
quand tu dis c'est une bonne chose, c'est quoi? Ça va bousculer, ça va peser sur justement cette campagne qui est en train de prendre forme des présidentielles. présidentielle.
Je pense que ça va peser sur le débat politique à l'approche de la présidentielle.
Qu'est-ce que vous dites, vous, Ibouba?
Mais moi, je crois que ça veut dire juste que les réels problèmes et les vrais problèmes doivent être mis sur la table.
Ils remontent à la surface.
Exactement, remontent sur la surface. Et que ce n'est pas l'immigration aujourd'hui qui est le problème lancinant des Français. Le problème des Français, c'est ce problème-là. C'est le manque de vie. C'est la France qui est 5e puissance mondiale et qui voit ses enfants qui sont en train de quémander, qui sont en train de faire une longue file pour manger. C'est ça la honte, c'est ça le fond du problème. Et c'est ce qu'il faut mettre aujourd'hui sur les plateformes. C'est ce qu'il faut mettre aujourd'hui sous les yeux du monde entier. Je crois que c'est ça la réalité. Les faux débats, on n'en a pas besoin. Même si aujourd'hui nous savons que les médias contribuent beaucoup à cela, mais il est temps quand même de mettre les vrais
Allez,
problèmes
messieurs.
Et
merci.
Que les Français sachent ce qui se passe. Merci.
Merci messieurs, merci Bouba, journaliste, merci monsieur le maire adjoint Amin Saha de la ville de la Courneuve. À très bientôt, messieurs.
À très bientôt.
Allez, tout de suite, c'est Time Sport dans une poignée de minutes avec Bilal Lendman. Bonjour Bilal.
Bonsoir.
Quel est le sommaire qui nous attend dans une poignée de minutes, mon cher
Bilal? Le sommaire, c'est le match de ce jeudi soir en demi-finale de la Ligue des Nations. Les Belges auront leur revanche face à l'équipe de France.
Ah, j'aime ça.
Après, on accueille Yassine Amened, un rédacteur chez nos confrères de Paris United, mais aussi entraîneur et auteur d'un magnifique livre aux éditions Talon Sport. Voilà, et on parlera aussi des 20 ans, les 20 ans d'un France-Algérie du côté du Stade de France.
Stade de France. Eh bien écoutez, joli programme en perspective qui nous attend, Bilal, c'était de 20h à 21h.
C'est ça, tout à fait.
À tout de suite, restez à l'écoute, merci à la réalisation, à Yanis et à tous les autres d'ailleurs, on ne lâche rien et à demain avec autant de plaisir. Ciao, ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.